Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons et nous terminons cette très importante série concernant la rédemption. C'est l'étude numéro 29. Et donc, le terme sera l'enseignement que nous donne toute cette série d'études. Voyons cela de plus près. Chers amis, j'en viens maintenant à quelques-uns des enseignements que nous fournit tout ce qui a été dit. Premièrement, nous pouvons voir par là que la rédemption est une grande œuvre. Nous l'avons maintenant, quoique d'une manière bien imparfaite, suivi dans tous ses développements, c'est-à-dire depuis son commencement à la chute de l'homme jusqu'à sa consommation à la fin du monde. Nous avons vu comment Dieu a travaillé à la construction de ce grand édifice, une suite d'œuvres admirables, l'élevant toujours plus, on peut dire plus des siècles en siècles, jusqu'à ce que la dernière pierre ait été posée. Et à présent, considérons combien est grande cette merveilleuse œuvre. Combien plus ne devons-nous pas admirer ce grand édifice de Dieu qu'il a édifié dans la suite des âges. Il y a trois choses entre celles qui nous ont occupés, qui nous montrent plus particulièrement la grandeur de l'œuvre de la rédemption. Nous avons d'abord la grandeur des événements particuliers et des dispensations providentielles par lesquelles elle a été accomplie. Combien sont grandes ces choses que Dieu a faites, bien qu'elles ne soient que des portions de cette grande œuvre. Quelles grandes choses ont été faites dans le monde en vue de préparer la voie pour la venue de Christ afin de racheter son peuple, et quelles grandes choses il a faites en l'accomplissant. Quelle chose admirable s'est passée pour mettre Christ en état d'accomplir sa rédemption, à savoir son incarnation. Il a fallu que Dieu devienne un homme tout d'abord. Et quelles grandes choses ont été faites pour l'accomplir. Celui qui était Jéhovah, l'Éternel, il a vécu sur cette terre pendant 34 ou 35 ans, dans une condition humble et méprisée. Il a passé sa vie dans le travail et la souffrance, et il a fini par mourir sur la croix. Et quelle grande chose Dieu n'a-t-il pas accompli pour faire porter ses fruits à la rédemption chrétienne. Dans ce but, il ressuscita des morts, il monta aux cieux, et toutes choses lui ont été assujetties. Combien de grands miracles ont eu lieu, rappelez-vous, que de grandes révélations n'y a-t-il pas eu dans le monde? Et combien de plus grandes n'y en aura-t-il pas encore, de toutes en vue de cette œuvre merveilleuse? Le nombre de ces grands événements, au moyen desquels Dieu a poursuivi cette œuvre, nous montre sa grandeur. Ces grandes révolutions sont si importantes qu'elles remplissent plusieurs siècles. Des événements remarquables qui ont commencé à l'œuvre de la création ont été accomplis en 6 jours. Mais les grandes dispensations au moyen desquelles l'œuvre de la rédemption s'est poursuivie sont si nombreuses qu'elles embrassent une période d'au moins 6 ou 7 000 ans, comme nous sommes en droit de le conclure d'après la sainte parole de Dieu. Déjà avant le déluge, oui, avant le déluge, il s'accomplit de grands événements en vue de cette œuvre. Le monde a été détruit par le déluge, mais l'Église de Dieu, elle fut préservée toujours dans l'intérêt et dans l'œuvre de la rédemption. Et après le déluge, quelle grande chose Dieu a fait pour peupler de nouveau le monde. Ensuite, tout ce qui concerne la construction de Babel, la dispersion des nations, le raccourcissement de la vie humaine, car elle était 10 fois plus longue autrefois, avant le déluge, la vocation d'Abraham, la destruction de Sodome et de Gomorre, et toute cette suite des dispensations providentielles concernant Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, ces miracles en Égypte et à la mer Rouge, dans le désert, et ensuite en Canaan du temps de Josué, et enfin cette longue suite de dispensations providentielles de siècle en siècle en faveur du peuple d'Israël. Quelle grande chose Dieu n'a-t-il pas fait alors qu'il bouleversa si souvent le monde avant la venue de Jésus-Christ, et ceci afin de préparer cette œuvre. Quelles furent étonnantes celles qui se sont passées du temps de Christ et plus tard, quand le royaume de Satan fut renversé dans l'Empire romain et quand l'Église a été préservée au milieu des ténèbres du Moyen-Âge et que enfin la Réformation arriva. Et que de grandes choses auront encore lieu alors que les beaux jours de l'Église arriveront, que Christ viendra, il viendra pour le jugement dernier, alors que le monde sera détruit et que l'Église entière sera transportée dans les cieux. Chers amis, le glorieux résultat de toute cette œuvre, la destruction complète et éternelle des méchants, et la gloire parfaite des justes. Considérons encore une fois cet édifice maintenant que tout est terminé et qu'il a reçu la dernière pierre. Il était magnifique du temps des apôtres, plus glorieux encore du temps de Constantin, et sa gloire a augmenté encore plus après la chute de l'Antéchrist. Mais, à la consommation de toutes choses, sa gloire dépassera encore tout ce que l'on aura vu précédemment. Il apparaîtra à ce moment dans sa plus grande magnificence. Il apparaîtra comme une construction haute et élevée dont le sommet atteint les cieux des cieux, édifice digne du grand Dieu, oui, du roi des rois. De tout ce qui a été dit, nous pouvons conclure que la rédemption est la plus grande de toutes les œuvres de Dieu qui nous ont occupés, et que c'est en vue d'elle que toutes les autres ont été accomplies. On voit très clairement d'après ce qui a été dit, quelle est la principale des œuvres providentielles de Dieu et que toutes les autres lui sont subordonnées. Nous voyons que toutes les révolutions du monde doivent servir à la réalisation de ce grand dessein. Et cela montre combien l'œuvre de la rédemption est plus grande que celle de la création. Je répète, cela nous montre combien l'œuvre de la rédemption est bien plus grande que celle de la création, parce que celle-ci n'est qu'un moyen en vue de l'autre qui est le vrai but. De même qu'on bâtit une maison pour s'en servir, mais la rédemption est le résumé de toutes les œuvres providentielles de Dieu. Toutes lui sont subordonnées, ou si l'œuvre de la nouvelle création est plus excellente que celle de l'ancienne. Il arrive toujours que quand Dieu abolit une chose ancienne pour faire place à une nouvelle, celle-ci est plus excellente que la première. Ainsi le peuple, on peut dire plutôt le temple, le fameux temple, il a dépassé, rappelez-vous, le tabernacle en gloire. La nouvelle alliance et l'éclipse, l'ancienne. La dispensation de l'évangile et l'éclipse, celle de Moïse. Le trône de David, celui de Saül. Le sacerdoce de Jésus-Christ, celui d'Aaron. La nouvelle Jérusalem d'ancienne. Et ainsi la nouvelle création surpasse donc de beaucoup la première. Dieu ne s'est servi de la création que pour favoriser cette entreprise. C'est dans ce but-là qu'il a créé l'humanité, qu'il a créé les anges, la terre et les cieux. Dieu créa le monde pour procurer une épouse et pour procurer un royaume à son fils, et la création entière est en travail pour amener l'établissement du royaume de Christ ainsi que les noces spirituelles de Jésus-Christ et de son Église. Il est si vrai que la rédemption est la plus grande de toutes les œuvres de Dieu. Je répète, il est absolument vrai que la rédemption est la plus grande de toutes les œuvres de Dieu. Ainsi, tous les décrets de Dieu, de façon ou d'autre, elles font partie de cette alliance ou de rédemption qui a eu lieu entre le Père et le Fils dès avant déjà de la fondation du monde. Chaque décret de Dieu se rapporte d'une façon ou d'une autre à cette alliance. Chers amis, cela nous apprend comment Dieu est l'alpha et l'oméga, comment il est le commencement et la fin de toutes choses. Tels sont donc les caractères et les titres qui lui sont souvent attribués dans l'Écriture sainte. Qui est celui qui a opéré et fait ces choses? C'est celui qui a appelé les âges dès le commencement. Moi, l'Éternel, je suis le premier et je suis avec le dernier. Ésaïe, chapitre 41, verset 4. Et l'Écriture sainte lui donne surtout ses titres alors qu'elle parle de la Providence en tant qu'elle se rapporte à la grande œuvre de la rédemption dans laquelle elle se résume. Selon Ésaïe, chapitre 44, verset 6 et 7, et 48, versets 9 à 12. Aussi quand Christ révèle à son disciple Jean les grands événements à venir qui se rapportent à son Église et à son peuple, il se révèle souvent sous ce caractère qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui est à venir. » C'est-à-dire le Tout-Puissant, selon Apocalypse chapitre 1, verset 8. Et encore, « Et j'entendis derrière moi une grande voix comme est le son d'une trompette, disant, « Je suis en effet l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Apocalypse chapitre 1, verset 10 et 11. « Comme l'alpha est la première et l'oméga la dernière lettre de l'alphabet grec, cela revient à dire qu'il est le premier et le dernier, il est le commencement et la fin. Il me dit aussi, tout est maintenant accompli, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Apocalypse chapitre 21, verset 6. Or voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse chapitre 22, versets 12 et 13. Nous avons donc vu dans quel but Dieu a commencé les dispensations providentielles à l'origine des générations humaines et comment il a continué d'agir toujours conformément au même plan et comme tout finalement a abouti à Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous écrier avec l'apôtre aux profondeurs des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impossibles à trouver. Romains chapitre 11, verset 33. Car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternelle, éternellement. Amen. Et c'est confirmé par Romains, chapitre 11, verset 36. Chers amis, nous avons vu comment d'autres choses ont pris fin les unes après les autres, comment les États, les empires et les royaumes ont été réduits à rien, même les plus puissants d'entre eux. Nous avons vu combien de fois le monde a été bouleversé et qu'il le sera encore d'une manière plus remarquable. Nous avons vu comment il a été détruit une première fois par l'eau et comment il le sera par le feu. Mais Dieu reste toujours le même à travers tous les siècles. Il était avant le commencement du présent ordre des choses et il sera après qu'il aura pris fin. Psaume chapitre 102, versets 25 et 26. Dieu est ainsi celui qui est, qui a été et qui sera. Nous avons vu dans diverses circonstances comment tous les autres dieux périssent. Ceux des nations environnantes, tels que Canaan, et ceux de l'Empire romain sont tous détruits et leur culte a été depuis longtemps renversé. Nous avons vu comment l'Antéchrist, qui s'est lui-même appelé un dieu sur terre, comment Mahomet, qui réclame des honneurs religieux, comment tous les dieux des païens dans le monde entier sont destinés à être détruits. Nous avons vu aussi comment Satan, le grand dragon, cet ancien serpent qui s'est donné comme le dieu de ce monde, sera jeté dans l'étang de feu pour y souffrir une punition éternelle. Mais Jéhovah demeure à toujours. Son royaume est un royaume éternel et il n'y aura pas de fin à sa domination. Nous avons vu quels grands changements ont eu lieu dans le monde, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Troisièmement, nous pouvons voir par ce qui a été dit comment Dieu, comment Jésus-Christ a la prééminence en toutes choses. Car il est Jésus-Christ, le grand rédempteur. Et par conséquent, comme la rédemption est le résumé des œuvres providentielles de Dieu, elle montre que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses, au milieu de tout et en tout. Le fait que Dieu voulait que le monde servît à son Fils pour l'œuvre de la rédemption est une des raisons pour lesquelles il a créé tout par son moyen. Éphésiens chapitre 3, 9, versets 9 à 12. Ce qui a été dit montre comment tous les desseins de Dieu sont en Christ et comment il est avant tout et après tout, et tout subsiste en lui et est gouverné par lui, donc toutes choses sont pour lui, selon Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18. Dieu a placé son Fils premier-né au-dessus des rois de la terre, et il a placé son trône au-dessus de leur trône. Dieu a toujours maintenu son royaume, tandis que les autres se sont écroulés. Il reste le premier après tous les autres, malgré la grande opposition qu'il a rencontrée pendant tant de siècles. Tous les autres royaumes tombent, mais le sien est le dernier, et il ne cède jamais la place à aucun autre. Quatrièmement, cela nous montre également l'enchaînement, l'ordre et la beauté des œuvres de la providence de Dieu. Si nous considérons les événements d'une autre manière, tout nous apparaîtra confus. Ce sera comme le bruit de vagues agitées, et ces choses nous apparaîtront comme si les révolutions se succédaient par pur hasard, sans aucun but déterminé ni certain. Mais si nous considérons les événements de la Providence dans le sens sous lequel l'Écriture sainte nous les présente, eh bien, ils nous apparaissent dans un ordre absolument parfait, tous dirigés vers un même but, vers lequel ils tendent avec une suite et avec une harmonie absolument parfaite. Cinquièmement, de tout ce qui a été dit, nous pouvons conclure que les Saintes Écritures sont la Sainte Parole de Dieu, parce qu'elles seules nous apprennent quels sont les desseins de Dieu dans ses œuvres. Il est donc hors de doute que Dieu poursuit quelques projets et exécute quelques plans au moyen des diverses révolutions et changements qui s'accomplissent de siècle en siècle dans le monde. Il est très raisonnable de supposer qu'il y a quelques grands desseins auxquels la Providence subordonne tout les grands changements qui ont lieu dans le monde, que toutes les révolutions depuis le commencement du monde jusqu'à la fin ne sont que les diverses portions d'un même plan et qu'elles concourent toutes à amener le grand événement que tout puissant créateur et gouverneur du monde a en vue, et que le plan ne sera pas fini, ni le dessein complètement réalisé, avant la fin du monde, et avant que la dernière révolution ait eu lieu. Oh, rien, absolument rien, ne nous fait connaître quel est ce plan et ce dessein de Dieu dans ses œuvres, si ce n'est la Sainte Écriture. Rien d'autre ne prétend donner une exposition complète des œuvres de la Providence depuis le commencement jusqu'à la fin, ni nous apprend que tout au commencement, tout est venu de Dieu. Les Saintes Écritures seules ont pour mission de nous montrer un plan régulier dans toutes les révolutions que Dieu ordonne de siècle en siècle. Nous ne pouvons puiser à aucune autre source la connaissance du but que Dieu s'est vraiment proposé en faisant toutes ces choses. Ce qu'il fait, ce qu'il fera, ce qu'il poursuit, ce qu'il se propose. Aucun autre livre ne prétend montrer avec clarté et certitude comment le monde a commencé. Ni nous enseigne la véritable origine des choses. Ah oui, les Saintes Écritures seules nous montrent comment Dieu a gouverné le monde d'une manière régulière, et cela dès le commencement, comme il le gouverne jusqu'à la fin, en prophétisant d'avance, ah oui, d'avance, toute une suite d'événements à venir. Les dieux, les prophéties et les docteurs des païens n'ont pas pu répondre à la sommation que l'Éternel leur a faite, que on les amène et qu'ils nous déclarent les choses qui arriveront. Déclarez-nous ce que veulent dire les choses qui ont été auparavant, et nous y prendrons garde et nous saurons leur issue. Ou faites-nous entendre ce qui est prêt à arriver. Notez Ésaïe, chapitre 41, versets 22 et 23. De plus, mes chers amis, il est convenable que l'humanité ait quelque connaissance des desseins de Dieu dans le gouvernement du monde, parce que l'homme a été créé capable de concourir à l'accomplissement de ses desseins, d'avancer son exécution et d'agir comme son ami et son sujet. Il est par conséquent raisonnable de supposer que Dieu a donné aux hommes quelques révélations pour les en informer, mais il n'y a que la Sainte Bible qui le fasse. C'est la Sainte Bible qui le fait. Dans ce livre, nous apprenons quelle fut la première origine des choses. Elle nous donne un récit des plans de Dieu dans ses œuvres depuis le commencement, à travers tous ces siècles restés inconnus pour tous les autres historiens. Elle nous dit que Dieu se propose dans l'ensemble, quel est son grand but, comment il a formé tout son plan et les grandes choses qu'il accomplira. Nous trouvons en elle un compte rendu digne de Dieu qui met tout à fait en évidence la gloire de ses perfections, sa majesté, sa sagesse, sa sainteté, sa grâce et son amour. Et par-dessus tout, son exaltation au-dessus de toutes choses comme le premier et le dernier. Elle nous montre les diverses portions de l'œuvre providentielle, comme tout se lie dans un cadre régulier et magnifique. Nous avons un exposé de tout le plan providentiel depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, soit dans l'histoire, soit dans les prophéties, et il nous est dit comment tout aboutira à la soumission des ennemis de Dieu, au salut et à la gloire de son Église et à l'établissement du royaume éternel de son cher Fils. Quelle révélation rationnelle et excellente n'est pas celle-là? Quel livre excellent que la Sainte Bible, qui renferme tant de choses qu'ignorent tous les autres livres du monde. Quel caractère est possédé de sa divinité. un livre, oui, que le grand Jéhovah a donné à l'humanité pour son instruction, et sans lequel nous aurions été laissés dans les ténèbres et dans la confusion. Chers amis, sixièmement, d'après ce qui a été dit, nous prouvons la grande majesté de Dieu et son pouvoir dans cette œuvre de la rédemption. Son pouvoir glorieux se manifeste en ce qu'il maintient l'Église pendant si longtemps, qu'il poursuit son œuvre, qu'il la soutient, souvent alors qu'elle n'est que comme une petite étincelle, alors que les pouvoirs de la terre et de l'enfer sont combinés pour la détruire. Eh oui, et néanmoins, voyez-vous, Dieu ne leur a jamais permis de l'éteindre complètement, ni par les Poutines, ni par la Corée du Nord, ni par l'Amérique, ni par l'Iran, ni par personne d'autre. Et il finira par lui donner la victoire. Dieu manifeste sa force dans la faiblesse de son Église, en faisant triompher son peuple de la terre et de l'enfer, bien qu'ils ne soient que comme de petits enfants, de sorte qu'ils fouleront aux pieds le lion et le serpent, le jeune lion et le dragon. Le pouvoir glorieux de Dieu se manifeste en ce qu'il triomphe de tant d'ennemis puissants au moyen de ce Sauveur qui fut un jour un enfant dans une crèche et qui eut l'apparence d'un homme pauvre, faible et méprisé. Il les a vaincus et triomphe d'eux par leurs propres armes, c'est-à-dire par la croix. La glorieuse majesté de Dieu, elle se manifeste en conséquent les uns après les autres, tous ses ennemis puissants de l'Église, en triomphant de Satan, cet esprit puissant et orgueilleux que est le Satan, et de toute son armée infernale, il faut bien le dire, en le renversant après qu'il s'est vanté pendant bien longtemps d'être le Dieu de ce monde pour plusieurs siècles, et qu'il a fait tout son possible afin de se maintenir dans son royaume. Voyez-vous, le pouvoir de Dieu se manifeste d'une manière éclatante en triomphant de Satan, en triomphant de l'ennemi, précisément quand il s'était établi dans le plus puissant et le plus fort empire païen qu'il y ait jamais eu, c'est-à-dire l'empire romain. Christ est notre archange Michel. Il triomphera de lui, du diable, et cela est certain, car le diable a été précipité. Il n'y eut plus de place dans le ciel après que l'archange Michel s'en est mêlé. Il fut précipité sur la terre et ses anges l'ont été avec lui. Son pouvoir se montre de nouveau d'une manière glorieuse quand il triomphe de l'opposition que Satan lui a faite au moyen de cette combinaison la plus formidable de toutes, c'est-à-dire le royaume de l'Antéchrist. Ce royaume de l'Antéchrist qui a servi tellement à mettre au jour son orgueil, sa ruse et sa cruauté. Surtout dans les derniers efforts qui ont précédé immédiatement après sa chute, son royaume visible a reçu un coup fatal qui fut suivi d'une ruine universelle dans le monde entier. Septièmement, ce qui a été dit nous montre la grande sagesse de Dieu. Cette sagesse éclate à la création du monde, formée par un si excellent usage et pour accomplir une œuvre si admirable. Elle brille aussi en ce qu'il fait sortir tant de bien de tant de mal et se sert de la chute et de la ruine de l'humanité en elle-même si déplorable comme d'une occasion pour accomplir une œuvre si étonnante que l'est celle de la rédemption et pour introduire ses élus dans un état de bonheur si parfait. Et comme la sagesse de Dieu se montre dans cette longue série de révolutions dans le monde, en faisant sortir tant d'ordre et de confusion, en déjouant les machinations les plus habiles de l'ennemi, c'est-à-dire de Satan, qui se glorifie, et en les faisant tourner de manière à rendre le triomphe de son Fils d'autant plus glorieux. Alléluia. Combien est admirable la sagesse de Dieu alors qu'il fait aboutir finalement tous les divers changements et les divers bouleversements dans le monde à une période si glorieuse et alors qu'il dirige si bien les divers rouages et de la providence de sa main habile, de sorte qu'ils concourent tous comme les divers rouages d'une machine remarquable à amener un si beau résultat, c'est-à-dire la manifestation de la gloire divine, le bonheur de son peuple et la fondation du royaume éternel et glorieux de son Fils bien-aimé. Huitièmement, chers amis, ce qui a été dit nous montre la permanence et la connaissance et de la fidélité de Dieu envers son peuple. Il n'oublie jamais son héritage. Il se rappelle toujours son alliance de grâce avec eux à travers toutes les générations. Présentement aussi, nous voyons la vérité des paroles du psaume 36, versets 5 et 6, où il est dit « L'Éternel, Éternel, ta gratitude atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme de hautes montagnes, tes jugements sont un grand abîme. » Et quand nous considérons ce qu'il a été dit, nous ne devons pas nous donner ou nous étonner d'entendre le psalmiste qui dit dans le psaume 136 « Répétez si souvent » dans le psaume 136 où il est dit « Car sa miséricorde, elle demeura toujours. » Oui, sa miséricorde, elle demeura toujours. Alléluia. Il semble qu'il soit en extase en contemplant la perpétuité de la miséricorde de Dieu envers son Église. Il se réjouit en y pensant et il semble ne pouvoir assez la proclamer. Célébrons donc nous-mêmes avec un semblable plaisir et une égale joie, la durée éternelle de la miséricorde et de la fidélité de Dieu envers son Église et envers son peuple. Que cela nous encourage, chers amis, au milieu des circonstances difficiles dans lesquelles l'Église peut se trouver, au milieu des agitations et du bruit du monde, et en présence des menaces des ennemis de l'Église. Prenons donc courage et demandons d'une manière sérieuse ces choses glorieuses que Dieu a promis d'accomplir pour son Église. Neuvièmement, cela nous enseigne que l'Église chrétienne est une société très heureuse de fidèles. Toute cette grande œuvre est pour eux. C'est pour eux, oui, pour ces fidèles qu'il a créé le monde. C'est pour eux encore qu'il le détruira. C'est en vue d'eux qu'il a formé les cieux et qu'il a fait de ses anges des esprits administrateurs. Et c'est pourquoi l'apôtre dit que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous, soit Saint Paul, soit Apollos, soit s'efface, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, car toutes choses sont à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu le Père. Que heureux est ce peuple qui a été racheté d'entre les hommes pour être les prémices qui ont été offertes à Dieu et à l'agneau, et qui dans tous les siècles, là pour sa protection et pour son secours. Chers amis, que ceux qui triomphent en ce moment, que les ennemis de l'Église s'enorgueillissent tant qu'il leur plaira, car c'est là le peuple qui finira par triompher. Le dernier royaume lui appartiendra et il ne passera pas à d'autres jamais. Nous avons vu à quel heureux résultat tout doit finalement aboutir, quelle doit être la gloire des fidèles et comment ils doivent en jouir pour toujours après que le royaume du monde aura pris fin, que la terre telle qu'elle est aura totalement disparu. Et dixièmement, et enfin, cela montre l'extrême malheur de tous les méchants, de tous ceux qui ne sont pas en communion avec Jésus-Christ. Quand Dieu délivra les enfants d'Israël de la servitude d'Égypte, il déploya d'une manière remarquable sa colère contre Pharaon et les Égyptiens. Quand il les introduisit dans le pays de Canaan, sous la conduite de Josué, pour les mettre en possession de cet excellent pays, il a fait tomber ses jugements contre les Cananéens. Quand ils furent délivrés de la captivité de Babylone, les Babyloniens sont devenus les objets de la vengeance divine. Quand les non-juifs ont été appelés et les élus de Dieu, il faut bien le dire, ont été sauvés par la prédication des apôtres, eh bien Jérusalem et les Juifs ont persécuté, mais ils ont été détruits d'une manière terrible. Oh, je pourrais faire la même observation à l'occasion de la gloire accordée à l'Église lors de la chute de l'Antéchrist et au jour du jugement. Dans toutes ces circonstances-là, et particulièrement dans la dernière, il y a eu ou il y aura une grande manifestation de la colère céleste contre les méchants. Et c'est à cette classe d'hommes que vous appartenez si vous avez refusé Jésus-Christ. Vous êtes donc de ceux qui seront consumés avec ce monde méchant après le jour du jugement, quand Christ et son Église triompheront et monteront aux cieux. Que tous ceux qui sont ainsi hors de Christ considèrent sérieusement ces choses, qu'ils ne fassent pas comme ces habitants insensés de l'ancien monde, qui ne ont pas tenu compte des avertissements de Noé lorsqu'il leur avait annoncé que Dieu allait envoyer le déluge, qu'ils ne ressemblent pas aux gens de Sodome et Gomorre, qui n'ont pas cru aux paroles de Lot lorsqu'il leur a annoncé que Dieu détruirait leur ville, qui n'ont pas voulu fuir la colère qui s'est approchée et qui furent tous ainsi consumés dans cette terrible destruction. Et maintenant, chers amis, je terminerai ce sujet par la solennelle déclaration qui est contenue dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, ces paroles sont absolument certaines et véritables. Oui, bienheureux celui qui les garde. Or, voici, il est dit, voici je viens bientôt, dit Jésus-Christ, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Que celui qui est injuste soit injuste encore, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste soit plus juste encore, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Donc bienheureux sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent par la porte étroite dans la cité. Mais les chiens, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et commet la fausseté seront laissés dehors. Celui qui rend témoignage de ces choses-là, il dit, « Certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur, Seigneur Jésus, viens. Amen. » Chers amis, maintenant, je voudrais, avant de terminer par la prière, vous donner quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur pour vous transmettre. C'est quelque chose d'important pour votre édification personnelle, mais aussi pour vous encourager. Écoutez bien. Offre à Dieu un sacrifice de louange et acquitte-toi de tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi alors au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me rendras gloire. Psaume chapitre 50, versets 14 et 15. En louant le Seigneur Jésus-Christ et en lui apportant vos actions de grâce, en vous acquittant fidèlement de vos promesses et de vos vœux, vous effectuez un placement, en sorte qu'au jour de la détresse, vous pouvez vous adresser à lui en toute confiance et avec la certitude d'être délivré. Soyez donc bien convaincus de cela et souvenez-vous-en. Le monde s'étonne quand il rencontre un homme toujours en état de recevoir de sa providence ce dont il a besoin pour lui-même, pour un ami ou pour un malheureux quelconque. Il s'en étonne car il n'a pas vu les innombrables petits versements de vraie fidélité effectués à la banque de sa providence. Et oui, c'est ainsi que les choses passent dans le royaume de Jésus-Christ. Le monde lui-même constate que le croyant peut à chaque instant s'adresser à lui et qu'il répond à son attente. Il s'imagine peut-être alors que cet homme possède un pouvoir magique. Oh, pas du tout. C'est tout simplement que le monde ignore. Il ignore ce qu'a fait cet homme en apportant à Dieu sa louange et ses actions de grâce et en s'acquittant fidèlement de ses promesses et de ses vœux. Oui, c'est ainsi que vous devez agir, vous qui êtes ses enfants. Offrez à Dieu un sacrifice de louange et acquittez-vous de vos vœux à l'égard du Très-Haut. Ensuite, invoquez-le au jour de la détresse et il vous délivrera. Cette promesse doit transfigurer à vos yeux les jours qui vous semblent dénués d'intérêt parce qu'ils sont faits de petites choses. Elle doit aussi réjouir vos cœurs, vous qui êtes ses enfants. Et vous êtes, quand il n'y a pas de grande chose à faire, à être fidèle, fidèle dans les petites, afin de vous amasser un trésor dans le ciel. Oui, un trésor où vous pourrez puiser le jour où vous aurez besoin de beaucoup recevoir. Chers amis, maintenant, nous allons prier ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, notre vie s'écoule fugitive et rapide. Le jour naît et finit. Les mois et les années recommencent et s'achèvent. Il semble que nous soyons emportés comme par un torrent dont les flots se précipitent avec d'autant plus de vitesse qu'ils approchent de l'abîme où ils seront engloutis. Qu'est-ce donc que notre vie, Dieu Tout-Puissant ? Une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Aujourd'hui, nous sommes pleins de santé, de force. Or demain, la tombe recevra notre enveloppe terrestre immobile et glacée. Aujourd'hui, nous ne rêvons que espérance, projet de bonheur. Demain, nous verrons disparaître ces songes enivrants et l'avenir éternel et redoutable s'étendra devant nous. Insensés donc sont ceux qui vivent pour cette terre seulement, ceux qui ne pensent pas chaque jour et sans cesse à la fin inévitable et prochaine de cette vie, ceux qui ne savent pas rattacher leur existence terrestre à l'éternité. Insensés donc sont ceux qui s'efforcent d'oublier que d'un instant à l'autre, leur âme peut leur être redemandée. Seigneur, que nous ne soyons pas au nombre de ces insensés, mais que nous sachions nous préparer à tout quitter quand tu nous appelleras et apparaître en ta présence. Sauveur de nos âmes, Jésus-Christ, divin rédempteur, aie pitié de nous et reçois-nous dans ta miséricorde. Nous nous confions en toi, car nous savons qu'il n'y a de salut en aucun autre. Seigneur notre Dieu, ne rejette point notre prière et que ta grâce nous fasse vivre éternellement pour te louer et pour te bénir. Amen. Amen. Et à présent, chers amis, j'aimerais vous transmettre un ou deux chants d'un très lointain passé, plus d'un demi-siècle. Et évidemment, vous comprendrez qu'en ce temps, en ce temps-là, il n'y avait pas ni cassette ni de CD, et c'était très différent. Et évidemment, la qualité n'est plus la même. Que le Seigneur vous bénisse, et sachez que je vous aime, et je vous enlace maintenant, et je vous embrasse tous avec tout mon amour, car je sais que le Seigneur vous aime, et c'est donc mon devoir de vous aimer également. Et surtout, chers amis, prions les uns pour les autres. N'oubliez jamais cela.
Et professeurs qui eux aussi ont fait leur début dans, dans ces grandes chorales, mais et en meneur de ces grandes chorales. Le premier que je vous propose s'appelle le professeur James Earl Hines, qui vient de Cleveland, et c'est à Los Angeles qu'il a commencé sa carrière, comme à la fois comme révérend, et dans une très fameuse église qui s'appelle la St. Paul Baptist Church, et à partir de là, il a une renommée énorme, et vous allez l'entendre, il chantait divinement bien. Il chantait parce qu'il est malheureusement décédé il y a plus de 30 ans. On écoute le professeur James Earl Hines. James Earl Hines et sa congrégation à Los Angeles. Et tous ces prédicateurs, ceux qu'on va entendre par la suite aussi, ont ce don, ce pouvoir charismatique d'entraîner. Vous entendez comment il entraîne le cœur derrière lui et toute la foule qui assiste à ses sermons dans son église. Même chose pour celui qui va suivre maintenant, qui a un joli prénom du reste, s'appelait Norsalus. Enfin, les Américains disent Norsalus, mais tout de même, Norsalus McKissick, qui venait de Chicago, lui aussi un remarquable styliste. Il avait commencé avec la chanteuse Roberta Martin, qu'on a entendue tout à l'heure au piano. C'est celle qui organisait les concerts et qui restait plutôt dans l'ombre, plutôt que de développer sa propre carrière. Elle a permis à des gens donc, comme Norsalus McKissick de venir au tout premier plan. On l'écoute. Thank you.
and sorrow. Born on the isle, in light dark sea, when I saw far in the distance the ship, it seemed to be. Captain beckoned, he cried so loud and free, my child, I've come to save you, step on board and follow me. Ship of Zion. Ship of Zion.